Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Chose Commune. Cette semaine, votre magazine Nature et Environnement prend l'eau. À l'occasion du passage de bateliers et d'une diversité de participants importantes à Blois, dans le cadre de la Grande Remontée de la Loire qui a eu lieu en septembre, on embarque pour une portion de cette grande remontée qui nous a mené de Chaumont à Blois. Bonne écoute! Il est 9h passé ce mercredi 13 septembre à Chaumont-sur-Loire, lieu d'escale pour les équipages d'une quinzaine de bateaux partis de l'estuaire de Saint-Nazaire pour rejoindre Orléans et le Festival de Loire. À quelques minutes de partir pour Blois, on s'active autour des bateaux encore acquis. On se prépare pour la journée et on débriefe de la journée de la veille. Pas de vent annoncé, il faudra naviguer au moteur aujourd'hui. Les voiles doivent être rangées.
Enlève le collier de la cale. D'un côté. Bah oui, sinon on peut pas la tirer.
Bah oui.
Tu la tires, mais ça change qu'elle se passe devant le bret là.
Attends, bouge pas, monte un peu.
Allez.
Bouge
pas. Non mais on va la monter du trop, passe-la devant le bret là. Voilà.
D'ailleurs,
allez, pousse encore. Voilà. Bon. Maintenant on va monter ça là-haut et on va replier en descendant.
Attends, Michel.
Du coup, les cochons. Les écoutes, on les love. Ouais. Love les écoutes déjà. Tu loves ton écoute. On la roule pas comme ça.
On la roule en
on la roule pas comme ça.
Donc ça, c'est le bateau qui était à Venise et qui se coupe en trois morceaux.
Ok.
Trois parties étanches.
Ouais. Les armatures. On les voit bien les parties, ouais.
Voilà, c'est ça. Et c'est trois parties étanches.
Ok.
Donc on a fait la Bogalonga, on l'a emmené à Venise. Et donc c'est une plate, ni plus ni moins, la même constitution. Voilà, on fait de la voile, on fait de la rame, on peut ramer avec.
Donc, ouais, on voit bien qu'elles peuvent se réduire en termes de taille et tout ça.
Ouais, c'est ça, oui. Trois parties flottabilité. On n'a jamais mis l'arrière avec l'avant.
Ah oui.
On n'a jamais testé. On pourrait, hein, mais on n'a jamais fait. Ça fait bizarre quand même.
Ah, ouais.
À Blois, il y a une équipe déjà de Cédric qui pourra éventuellement nous donner un coup de main. On va voir. Cédric passerait en premier parce que de toute façon, je ne pense pas. Enfin, pour l'instant, on n'a pas d'aide comme il y avait la dernière fois avec un bateau.
Avec un bateau la dernière fois?
Bah, quand on arrivait, il y avait. Non, il y avait.
Non. C'était les pieds dans les égouts.
Ouais,
les pieds
dans les égouts. C'est bon. Ah, alors, chose importante, vous mettez des chaussures pour aller venir aller. Bah, en plus, c'est gluant. Enfin, j'en sais rien, le niveau de Loire qui s'est été employé.
Il y avait un orage.
Ils n'ont pas répondu.
On avait eu un orage terrible.
Hein?
Oui,
c'est ça, les égouts avaient débordé et ça, on avait eu de la merde partout. Donc voilà. Bon, bah, on peut, si on veut, on peut attendre dans le fond. Hein. Ouais.
Alors.
Tiens, passe-moi un coup.
Gilles Crespin, des bateliers du Cher à Savonnières, est président de l'association Voile de Loire, qui regroupe justement les associations de bateliers de la Loire.
Nous sommes partis le 31 août de Saint-Jean-de-Boisseau là-bas dans l'estuaire, au-delà de Nantes.
Ouais.
Et puis ben, on est le 13, donc ça fait 14 jours de navigation. Le principe de la grande remontée, en fait, c'est parti du grand retournement en 2021.
Ouais.
Il y avait une idée de pouvoir rejoindre Orléans sans utiliser les camions. Parce que normalement, notre but, c'est rejoindre le Festival de Loire. On était parti de Tours, on avait fait Tours-Orléans. Et là, cette fois-ci, on lance, d'une manière, on a été plus ambitieux, on est parti de Nantes. C'est-à-dire qu'on a rajouté deux départements, une région. Donc on a cinq départements à traverser, deux régions, une grosse partie de la Loire qui était historiquement commerçante.
Toute cette partie de la Loire que vous faites depuis donc le 31 août, elle est navigable, j'ai pas eu de soucis.
Bah non, normalement. Ouais. Alors elle est navigable jusqu'au pont de C. Elle est balisée.
Ouais.
C'est tout à fait navigable. Et en fait, ensuite, à partir des ponts de C, il y a beaucoup moins d'eau. La Boal, la Dagonière, c'est
compliqué.
Très très compliqué. On s'en sable facilement. Et puis après, il n'y a plus de bouée. Donc il n'y a plus de balisage, donc c'est à nous de pouvoir trouver les passages. Donc les gars peuvent, doivent avoir un toutier, et puis qui regarde l'eau, qui lit l'eau. Lire l'eau, ça veut dire, regarder où est l'eau profonde. Donc lire l'eau, ça veut dire regarder où il y a de la profondeur. Et en fait, vous pouvez voir, selon... Quand, si il y a du courant ou si l'eau est complètement plate. S'il commence à y avoir des bulles qui passent, des feuilles, des plumes qui descendent, ça veut dire qu'il y a du courant. S'il y a du courant, il y a tout à fait possibilité d'avoir déjà un débit d'eau. C'est pas stagnant et souvent il y a une profondeur. La plupart du temps, faudra serpenter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra faire rive droite, rive gauche ou rive gauche, rive droite. Passer dans le milieu. Dans le milieu, il y aura moins d'eau. Mmh. On va passer forcément sur une bosse. Et donc, dans ces cas-là, faut forcer un petit peu.
Le bateau qui est en tête, il s'appelle un tourtier, c'est ça? Non,
c'est le toutier.
Le toutier, pardon.
Alors, le toutier, c'était le nom du petit canot qui précédait les convois et donc qui permettait d'ouvrir la voie. Et c'est tout, et de regarder les obstacles et de passer là où il y avait de l'eau. Donc normalement, il y a une canne aussi, une perche pour voir le niveau, sonder éventuellement.
Donc là, j'ai compté 14 bateaux, départ de Chaumont.
Voilà, et on va avoir deux, normalement, Blois, il n'y en a pas, Saint-Dié, il y en a deux.
Le chiffre est fluctuant,
25,
selon les
23,
étapes.
Oui, normalement, on en a 10.
10 fixes.
On en a eu 10 à Orléans,
ouais.
Et donc là, on part à... On enrichit la flotte, mais on aura 23 bateaux normalement à Orléans.
Il y a des bateaux qui font certaines portions de...
Oui, aussi des accompagnants.
Ouais. Ok. Et notamment les associations locales. J'évoquais Milliard à Bateau.
Oui, il y a Milliard à Bateau. C'est pas bouché. Au bout, c'est peut-être des arbres qui tombent sur la... Regarde, il y a du courant là-bas.
Ah
oui,
non, mais c'est pas bouché.
Je sais pas comment on va passer là. Il y a les arbres.
Il va y avoir un couloir.
Hein?
Il va y avoir un couloir, mais ça va passer.
Ouais, il y a les arbres qui sont redescendus dessus. Ah, il y a peut-être un passage là-bas. Ouais.
Il n'y a pas de sécheresse, c'est tout vert. C'est
oui,
noir,
ah, voilà. Ou alors ça passe là-bas. On le voit mal là.
Ça va passer. Peut-être un passage entre les deux îles.
Ouais, t'as raison. On le voyait pas au début.
Sur Google Maps, il y a un passage indiqué. Maintenant, oui, ça enregistre pas bien les marées, Google Maps.
Et un jour, Google Maps, t'as payé ton abonnement.
Sinon, il décale.
Je vais attendre voir. L'autre là-bas devant, le Milliard à Bateau, il fait demi-tour.
Oh là, ils sont bourdés. Ils sont en train de bourder. Bah, qui en est un qui a exploré d'abord.
Et toi de l'autre côté, tu verras mieux.
Et là, t'as une grosse merde.
Ça passe par où?
Attends, Igor a dit.
Ouais.
L'autre, il est en train de faire le demi-tour là-bas. De toute façon, faut que le convoi se renforce dans le bon sens.
Ah, Igor, il bourde.
Oh, t'es le taron, Michel, toi.
Ah, d'accord. Igor, il bourde. Là-bas, c'est pas passé. Là-haut, il est passé, lui ?
Non.
Si, si, pas tout en haut, mais au milieu, là-bas.
Si, il a l'air de passer.
Ah, il est passé là-bas. Ok, donc ça doit être jouable, c'est jouable là-haut.
Et surtout qu'on a moins de tirant d'eau que lui.
Ouais, ouais. Bon, déjà, alors si Igor passe pas, on va aller voir là-haut.
Gilles, tu peux me dire ce qui se passe là? Pourquoi les bateaux sont...
Eh bien, on sait pas regarde. Très bien. Et apparemment, les pilotes ont deux options.
Bon, lui, il est passé.
Il y en a qu'une fois, une option de gauche, une option de droite. Et apparemment, Milliard Raboton. Celui qui nous guidait depuis ce matin, bah, il a réussi à passer là-bas, semble-t-il. Ouais, ils ont l'air de... Ouais, ils bourdent un peu là-haut. Ah, il y a Cédric qui bourde aussi là-bas en même temps.
Les milliers à Boton, ils sont passés là-haut, eux.
Ouais,
eux, ils sont dans la flotte, hein.
Faut regarder devant comme...
Allez voir,
ça monte, hein.
Ouais, il y a plus d'eau par là.
Ah ouais.
Voilà. Là c'est bon.
Alors ceux-là ils vont passer là?
Ben, je sais pas.
Non, ils reculent.
Là eux sont apparemment
en milieu. Oui, il fait demi-tour lui là-bas.
Je le vois.
En mange là du courant. Et eux ils ont l'air bien coincés. Les amis tous. Je vais faire.
Là c'est trompeur parce qu'il y a du courant des deux côtés. Et on ne peut pas savoir s'il y a un bras prioritaire.
Ah, ils viennent tous comme nous maintenant.
À mon avis, ils vont nous décider là-bas. Ouais, il y a Bastien qui descend. Il va sans doute nous donner une indication. Voilà, le principe de la grande remontée. Il y a une activité batelière, donc on transporte tout le monde et on fait le spectacle, l'arrivée principalement,
ouais.
Pour que le public vienne sur les berges. Ensuite, on a sur les escales un module, enfin ce que j'appelle un module d'animation standard. On a un petit marché où des exposants qui sont sur le bord. Il y a des animations. Alors, il faut se dire que là, embarqué sur les bateaux, on a des musiciens, un compteur, trois musiciens, des circassiens qui peuvent faire des spectacles, okay. Des jongleurs, du jonglage, des choses comme ça. Et donc ils sont embarqués sur les bateaux. Donc dès qu'ils arrivent, hop, ils vont sur la berge distraire le public.
Donc en fait, on découvre que au-delà des trajets en bateau que vous faites, il y a toute une activité.
Voilà, il y a une activité.
Il y a
l'environnement. Les thèmes, c'est l'environnement, l'écologie, le patrimoine, l'archéologie, l'histoire de la batellerie. Et donc, il y a des intervenants scientifiques qui, de toutes parts, avec un certain nombre d'organismes, Loire Sentinelle, la Mission Val-de-Loire, Nat Explorer, et puis le Polo. Le pôle d'art urbain de. Alors eux, ils sont en train de rédiger un manifeste de Loire en liaison avec le Parlement de Loire, enfin avec des disons un certain nombre d'opérations de débat et de recherche. Nat Explorer, je reviens sur eux parce qu'il y a un an et demi, deux ans, ils ont fait une descente de la source de la Loire, le Mont Gerbier des Joncs, mm-hmm. jusqu'à la Saint-Nazaire. Et ils ont fait des
milliers. L'intégralité de la Loire.
La Loire et avec des milliers de prélèvements.
De relevés, oui.
Et d'observations, et à partir de ça, ils ont fait un rapport, notamment mesure des polluants, mesure des sédiments, des métaux lourds, enfin, je crois que c'est 3000 analyses de laboratoire qui ont été produites, et sur cette base-là, là, ils sont en train de commencer dans le sens inverse.
D'accord.
Ça regarde bien ça,
Je suis avec Julien donc de Nat Explorer qui fait aussi partie de l'équipage qui remonte la Loire pour atteindre donc le Festival de Loire à Orléans. Bonjour Julien.
Bonjour.
Est-ce que tu peux rappeler ce que fait donc Nat Explorer, ce qu'est Nat Explorer et ce qu'ils font donc pendant cette grande remontée?
Oui, Nat Explorer, pour le dire très rapidement, c'est une structure d'exploration et de culture scientifique.
C'est une association ?
Non, on est intégré au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi à Angers.
Ouais.
On aime bien dire que c'est notre camp de base arrière, Angers et puis ses environs. Et cette structure qu'on a cofondée avec Barbara Rétoré, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, nous amène à nous rendre sur des terrains éloignés pour certains et très proches pour d'autres comme la Loire, de collecter des matières, notamment scientifiques, mais également artistiques, parce qu'on s'associe avec des artistes et des auteurs pour mener l'enquête. Et toute cette matière, c'est pour nous la matière fondamentale pour ensuite créer différents types de supports, des expos, des articles, des films documentaires, bref, faire feu de tout bois pour essayer de parler ensemble de comment est-ce qu'on peut mieux vivre dans les milieux que l'on habite.
Et donc, pour Nat Explorer, la science est une discipline complètement transversale, on l'entend, il y a à la fois des relevés des études scientifiques, mais aussi de l'art sous plusieurs formes.
On essaye de développer cette transversalité parce que c'est parti d'un constat tout simple, c'est que les sciences, mais comme n'importe quel autre domaine, ne peuvent pas tout dire, ou pas dire de la bonne manière, avec les mots justes ou avec les moyens qui vont toucher tous les types de publics. Et là, on s'est dit assez rapidement que les sciences et les arts ensemble avaient quelque chose à proposer pour toucher aussi les cordes sensibles, ce que parfois la science a du mal à faire. Même si les sciences du vivant ont cette capacité-là de parler à tout le monde et de toucher à l'affect.
Comment se présente, je vois le stand que vous avez déployé donc, ouais. sur la Creusille, tu l'évoquais rapidement, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails des résultats de toutes vos études, de vos recherches, de vos travaux?
On en est encore au début des résultats, mais on s'est dit que participant à cette grande remontée, c'était l'occasion de remonter des résultats, c'est une expression qu'on utilise souvent en science et ailleurs, et là, faisons-le au pied de la lettre. Et remontons le cours du fleuve pour remonter ses résultats. En faisant escale, chaque soir, depuis Nantes jusqu'à Orléans,
vous
et puis on déploie ce stand d'atelier qu'on voit ici. On a un jeu d'enquête qui est un jeu de plateau où on invite les publics à peupler ces paysages à partir d'indices qu'on peut relever sur le terrain. Des traces visibles et des traces invisibles. Et nous, c'est ce qui nous a intéressé, ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Ces traces génétiques invisible à l'œil nu et qu'on va pouvoir capter dans le milieu, en l'occurrence dans l'eau de la Loire, pour remonter jusqu'à leur propriétaire, un peu à l'image de la police scientifique. Donc ça, c'est la méthode qu'on a embarquée avec nous l'année dernière. On a aussi un labo des microplastiques qu'on est allé rechercher comme l'ADN environnemental l'année passée dans le sédiment et dans l'eau de la Loire. Et là, on invite les publics à mettre la main à la pâte et à aller chercher ces microplastiques, à comprendre ce que sont les microplastiques, quels sont leurs effets sur la santé, etc. Et puis, c'est l'occasion aussi de livrer les premiers résultats de cette étude et de dire, s'il faut dire un résultat, que, et on s'y attendait malheureusement, la contamination en microplastique en Loire est généralisée et qu'aucun de nos sites d'échantillonnage, il y en a eu 20 des sources à l'estuaire de la Loire, n'est exempt de cette contamination en microplastique. Et ce, dès les sources. Et on s'y attendait, ce à quoi on s'attendait moins, c'est que les concentrations, c'est-à-dire le nombre de microplastiques dans nos échantillons, c'est à peu près identique entre les sources, le kilomètre zéro et le kilomètre 1000 à l'estuaire. Donc ça veut dire qu'il se passe plein d'autres choses entre-temps. Les microplastiques vont se stocker quelque part, ils vont être remobilisés après par une crue, déposés par la décrue un peu plus loin, et en fait se fragmenter en particules de plus en plus fines. Et on le sait, les microplastiques, comme d'autres polluants, plus ils sont petits, et plus ils ont des effets délétères sur la santé globale. Et dans cette santé globale, il y a évidemment les humains, mais pas que.
Est-ce que le niveau des microplastiques détectés déjà à la Loire ou à la source vous a choqué
surpris,
ouais.
Surpris, non. Choqué un peu, parce que ce qu'on aimerait, et on aimerait nous être naïfs aussi par rapport à ça, et on s'était dit peut-être que ce sera moins important tout là-haut, au niveau de l'Ardèche, du Mont-Gervier-Jean. Mais force est de constater que non. Après, c'est difficile de comparer parce qu'on est dans des recherches naissantes sur les microplastiques, mais dans le monde entier. Et surtout dans les eaux continentales, on a commencé dans l'océan et petit à petit on remonte ce qu'on appelle la chaîne de contamination, dans les fleuves, dans leurs affluents, etc. Et les niveaux, si on prend toute la Loire, qu'on fait une moyenne des concentrations, ce niveau moyen de contamination, il est à peu près égal à celui de l'estuaire de la Seine. Parce que pour l'instant, en Seine, on n'allait voir que dans l'estuaire. Donc ça, ça nous dit que la Loire n'est pas plus polluée qu'un autre fleuve. Et ce qui est intéressant avec ces résultats, c'est que ça nous fait sortir de l'image assez collective que la Loire est un fleuve sauvage et donc qui sera en meilleur état écologique que la Seine. Bah, c'est pas aussi simple que ça. Et je veux pas dire par là que la Loire n'est pas sauvage. Mais elle est sauvage et elle est aussi autre chose, elle est aussi anthropisée. Et l'empreinte de l'humain, elle se fait aussi ressentir en Loire comme elle se fait ressentir en Seine.
Et tu parles de ce fameux cliché, voilà, qui n'en est qu'à moitié un, mais de la Loire sauvage. Est-ce qu'il y a des raisons aussi de se réjouir, de voir des belles études, enfin des résultats qui sont encourageants autour de la Loire?
Oui. Alors, faut les chercher. Hein. On vit dans ce monde-là, il faut chercher les bonnes nouvelles. Ouais. Je ne sais pas s'il y a de réelles raisons d'être optimiste, mais il y a quand même des... Enfin, moi, ce que je considère être comme des signes d'espoir, quand on voit le castor revenir en Loire comme il le fait, c'est-à-dire assez massivement, alors qu'il avait complètement disparu du bassin versant, parce qu'il avait été persécuté par les humains, il faut dire ce qui est. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'après avoir été persécuté, il y a des naturalistes qui ont décidé dans les années 70 de réintroduire quelques individus. Et à partir de ces quelques individus, aujourd'hui on a des centaines de castors qui ont quasiment réintégré toute leur aire de répartition sur la Loire et qui commencent maintenant à repeupler aussi les affluents. La loutre, c'est aussi l'histoire d'un retour, le balbuzard pêcheur, etc. Donc quand on s'intéresse aux vivants, il y a toujours des motifs d'espoir, mais aussi des motifs de lucidité, parce qu'ils nous font, en fait, par leur présence, ils nous racontent, et leur absence, ils nous racontent quel est l'état du monde dans lequel on vit en commun.
Et ce vivant nous rappelle que une espèce en entraîne une autre et qu'on a tout intérêt à développer, à réintroduire et à favoriser l'installation d'espèces pour que tout un écosystème se remette en place tout autour. C'est valable aussi pour la flore et tout ce qui concerne plutôt le milieu aquatique sur la Loire.
Oui, c'est aussi le cas. Alors, je parlerai moins des plantes parce que j'ai un tropisme animal dans mes études. Ouais. Je suis éthologue de formation, spécialiste du comportement des animaux, humains et non humains. Mais oui, la vie aquatique, il y a aussi des signes. Là, les signaux sont plutôt des signaux d'alerte, voire d'alarme, parce que si on parle que des poissons et des poissons migrateurs, les populations sont vraiment très très malmenées. L'anguille européenne est considérée en danger critique d'extinction. Donc ça va mal pour ces poissons migrateurs et on peut comprendre pourquoi. Hein, les obstacles, le réchauffement des eaux, les niveaux d'eau qui sont de plus en plus bas, la présence de prédateurs comme le silure qui ne leur facilite pas la tâche. C'est un peu plus compliqué de trouver des signaux et des signes d'espoir dans les eaux de la Loire.
Dernière question, j'ai pu les interroger. Chapeauter, tutorer des étudiants, des étudiantes. C'est aussi une mission de transmission et d'accompagnement pédagogique, j'imagine, qui est hyper importante. Hein.
Oui, c'est fondamental. Et, alors pour nous, c'est un peu particulier parce que leur objectif, le postulat de cette semaine là, qu'on partage ensemble, c'est d'enquêter sur l'enquête. Ou autrement dit, c'est comme Lévinciane Després qui est philosophe, elle se considère comme étant une éthologue des éthologues. Et ça fait bizarre quand on est habitué à observer les autres. Cette fois-ci, ce sont d'autres qui nous observent. Mais on aime bien ce retournement un peu des perspectives. Et c'est très stimulant pour nous et on espère que ça l'est aussi pour ces étudiantes qui sont en plein travail, à la fois de collecte et de restitution. Tout à l'heure, elles ont eu un temps de restitution. Et c'est très riche. Là, leur thème central, c'est celui des gisements. Et ces gisements, ils ne sont pas que matériels. C'est pas que extraire du sable en Loire ou ailleurs, même si aujourd'hui, on ne le fait plus dans les mineurs. Mais les gisements, ils sont aussi immatériels. Et c'est ce qu'elles sont en train d'explorer et d'investiguer au travers de nos pratiques.
Merci Julien, donc de Nat Explorer, qui participe donc à cette grande remontée et qui donc dispose sur chaque étape tout un tas de résultats et d'objets à observer et sur lesquels échanger. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Les étudiantes dont Julien vient de parler, justement, écoutons-les détailler leur travail pendant cette semaine sur la Loire au sein des différents bateaux. Elles nous parlent de la partie étude, de l'expérience collective et de la navigation. Au micro, Farah, Laura et Eva.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites sur ces bateaux?
On est en programme de recherche avec notre école. On est en études de master, enfin on est en master et dans l'école des Beaux-Arts d'Orléans qui s'appelle l'ESAD.
Ok.
Et on fait la remontée de la Loire afin de faire une partie afin d'étudier tout ce qui va être gisement. Donc ça va être les sédiments, les plantes ou encore la météorologie. Et on le fait à côté, avec les mariniers. Et il y a une autre équipe de notre classe qui, eux, suivent en parallèle, font des expériences et des expérimentations, mais eux à vélo.
Les études et les recherches que vous faites se font sur l'eau et sur les rives de Loire.
Exactement. Okay.
À quoi vont servir les travaux que vous faites?
Communiquer sur la Loire.
Ouais.
Sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle représente, ce qu'elle contient. Donc, comme a dit Eva en termes de sédiments. Observer aussi le vent, parce que certes la météo, mais surtout le vent. Les végétaux, les présences animales également. Et les professeurs n'ont pas vraiment évoqué, mais je trouve que c'est très important, vu qu'on est sur les bateaux, les habitants de la Loire ou les usagers de la Loire, tels les mariniers. Et en tout cas, pour ma part, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout et que j'aime énormément. Et en fait, ils nous font vraiment découvrir la Loire et aimer la Loire pour ce qu'elle est vraiment. Et là, on s'imprègne vraiment du lieu et c'est super. Au lieu de l'étudier à l'école, on pratique vraiment le terrain. Ça va se... Enfin, toutes ces recherches, toute cette expérience va se présenter sous forme, je dirais, d'exposition qui va être dans l'école et qui va pouvoir être vue des visiteurs et des étudiants de l'école. Et elle va être diffusée sur notre site internet. Il y a également un site internet, Liga cohabiter avec le fleuve. Mm-hmm. Donc chaque année, il y a des... il y a 3 ans, ils avaient également fait ça, mais c'était plus des visites comme ils font à vélo, donc des visites de carrière, de château, etc. Et ça permet d'enrichir le programme de recherche en général.
Vous avez de l'équipement, j'imagine, pour faire les recherches. Alors, je vous voyais ce matin en bord de Loire griffonner un petit peu. Farah, je crois que je t'ai vu griffonner un petit peu.
On essaye de prendre avec nous des outils qui nous permettent de collecter de la matière. Ça va être plus... et que ça soit pas non plus... Enfin, on n'est pas trop en plus, donc on reste quand même sur 3 outils, on va dire, sur lesquels on a... avec lesquels on a beaucoup travaillé ces 4 jours. C'est donc là, on travaille avec un appareil photo, donc tout ce qui est prendre des photos, pouvoir aussi faire des vidéos aussi. L'image est très importante pour pouvoir travailler par la suite, analyser aussi ce qu'on a pu vivre, se rappeler aussi, parce qu'on a tendance aussi à oublier. Donc l'image, elle peut être un... vecteur mémoire, mais aussi elle peut inviter aussi un public à rentrer dans l'histoire qu'on raconte, etc. Donc il y a l'appareil photo, et puis après avec le zoom, avec l'enregistreur sonore, on essaye de collecter des sons, de capturer des sons, des ambiances. On fait aussi des entretiens avec les équipages, avec Nat Explorer, qui sont un peu le cœur de notre enquête, et donc ça nous permet de capturer la parole, et cette parole en fait elle sera réécoutée par la suite, elle sera diffusée certainement, elle sera réutilisée, et puis on prend des notes et le dessin. Enfin, le dessin reste quand même, je l'ai dit un peu à la fin, mais c'est quand même notre premier outil d'expérimentation, d'expression, de notre premier langage, on va dire. On a des approches différentes du dessin, mais on va surtout dessiner le paysage, on va dessiner des détails, par exemple des bateaux sur lesquels on est. On va essayer de capturer aussi les objets, les différents outils qui sont utilisés par les bateliers, par l'équipage aussi. Et donc voilà, on peut aussi dessiner des plantes, essayer aussi de travailler de la couleur aussi. Donc on reste quand même très libre sur ce format-là. Donc voilà, ça va être vraiment ces trois supports. Et après, on peut emporter avec nous, parce que c'est pas,
tu veux du melon,
ça prend pas beaucoup de place, et ça nous permet d'avoir de la matière chaque jour, un peu plus. Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cet esprit d'équipe que vous avez vu depuis trois jours là ?
C'est super parce qu'il y a des personnes qui se connaissent depuis une vingtaine d'années et qui évoluent ensemble et qui se rendent des services mutuellement, que ce soit pour acheter un bateau, se vendre des bateaux entre eux ou simplement s'aider, je trouve ça super. Puis il y a aussi différentes générations, ça aussi c'est super. Et c'est cool de voir que les mariniers, les biologistes, etc. Sont comme une petite famille finalement. En tout cas, moi personnellement, ça m'aide beaucoup de voir tout ça. Voilà.
Je pense qu'il y a un vrai esprit d'équipe. On a tous la même direction, même objectif. Et on le ressent quand on est au sein des bateaux. Après, chaque bateau est différent de l'autre. Mm-hmm. Les équipes sont différentes. On est toujours face à des histoires différentes. Pour ceux, c'est une évidence d'être là. Pour d'autres, c'était un pur hasard. Pour d'autres, c'est un rêve d'enfant. Enfin, il y a des sensibilités différentes. Et donc, l'ambiance, elle dépend vachement de l'expérience et de surtout quand bien ces personnes ont passé sur le bateau et entre eux. Et donc, effectivement, nous, on s'invite un peu, mais on était très bien accueillis, on était très bien, très bien intégrés aussi. On était très, très vite intégrés dans le groupe. Et on a quand même essayé de rencontrer d'autres personnes. On travaille effectivement avec et sur NatExplorer, mais ça ne nous a pas empêché en fait d'aller rencontrer d'autres personnes, de dialoguer avec eux, de leur poser des questions. Voilà, ça nous enrichit effectivement et ça nous met aussi dans le bain, quoi, parce qu'on n'est pas juste des observateurs, mais on doit être aussi on doit être apte en fait à aller vers les autres et puis de proposer aussi des choses et puis de voilà, par exemple, simple exemple, et je finirai sur ça, le premier jour, le premier bivouac, donc c'était assez exceptionnel. Il faisait chaud et on devait, sur plusieurs moments, sauter du bateau pour pouvoir pousser le bateau. Et là, physiquement et littéralement, on est dans l'entraide, on est dans travailler ensemble.
Vous êtes sorti du cadre de votre présence ici pour faire partie intégrante des équipes et l'équipage.
Dans notre coin, mais là c'est bon, on était en short, on était en t-shirt et puis on est descendu dans l'eau.
Vous avez poussé le bateau, quoi.
Et on a poussé le bateau avec le reste de l'équipage. Et donc, donc ça c'était une vraie expérience d'entraide. S'il y a quelque chose qui va vraiment marquer là-dedans, ça serait ça en fait.
Oh le con!
Encore un bois qui va résister, les ethnologues vont jamais comprendre. Carbone 14, ils vont se demander ce qui se passe. Là,
il y avait pas gâté.
Comment y aller ?
Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on a mis ?
Pause déjeuner sur un îlot de la Loire. On mange, on se détend, on chante même, et on échange les infos relatives à l'arrivée du soir.
Du coup, arrivée des bateaux à Blois pour le passage du pont, normalement prévu à 16h. Donc en fait, on passe rive gauche.
Droite.
Il y aura le halage. Ce qui serait bien, c'est que contrairement à il y a 2 ans, que les bateaux ne stagnent pas en amont du pont. Après le passage du halage. Donc on va directement en fait au port de la Creusie au fur et à mesure qu'on passe les bateaux du pont. Surtout pas d'amarrage sur le ponton, demain il y a le grutage des bateaux de Blois. Donc pas de bateaux sur les pontons, il y a une cale en aval et une cale en amont du ponton. On répartit les bateaux là. Okay. Quand au ponton qu'on arrive au port de la Creusie, donc il y a une cahute, ce sera le bar. C'est le local de l'Observatoire Loire.
Oui.
Et ensuite, en fait, on remonte. Il y a la guinguette.
Oui.
D'accord. Après la guinguette, il y a le bivouac. Il y aura sûrement, peut-être, c'est pas encore sûr, mais on essaie de mettre la tente à voile de la Rabouilleuse, donc c'est une escale de 2 jours, pour que le coin bivouac soit identifié.
Ah, ok, cool.
Voilà. Ce soir, faut des mariniers à la guinguette. Pas au bar de l'Observatoire Loire, mais à la guinguette, un petit peu.
L'Observatoire Loire, ils ont un bar.
Oui. C'est les infos que j'ai. Et le repas est à 20h. C'est le même fonctionnement qu'hier. Il faut ramener vos couverts, assiettes, verres, couverts. C'est les copains du hangar qui nous préparent à manger sur toute l'escale de Blois. Okay.
aussi je voudrais ajouter pour le halage, si pas être 5 ou 6 par bateau comme ça s'est passé là.
Ah bah non,
le halage,
limiter le nombre de personnes sur les bateaux.
On décharge les bateaux, on met le nombre d'équipes qui est nécessaire pour le passage du pont. Et ceux qui sont acquis, on va au halage directement sous le pont et on est déjà 10 ou 15 à tirer.
Qui s'occupe d'organiser le halage? Il y a Igor qui se proposait. Parce qu'il dit qu'à Amboise, ça a été un peu trop rapide. Bon, bref. Il faut une petite équipe, 2-3, pour organiser le halage. Après, les bras, ils viennent et tout ça. Surtout, mettez des chaussures pour venir au halage. Ça, c'est fondamental.
Ouais, parce qu'il y a de la merde partout.
Il y a de la merde, mais il y a aussi des.
C'est que l'an dernier, on avait un déversoir. Il y a des
yolets. Ouais, la bouche est fluviale.
Mais autrement, non, un déversoir.
Et malheureusement, les pompiers ont décliné pour venir nettoyer. Il faut que je passe par le conseil départemental. Donc,
quand on passe au halage, on file directement au port de la Creusée. Donc, ça veut dire que les gens ne vont pas revenir pour donner un coup de main au halage.
Non, mais il faut rester quai Saint-Jean. Et une fois que tout le monde est passé, on passe à la Creusée. On reste tous côté quai Saint-Jean.
D'abord, on accoste. Normalement, ils ont rasé l'herbe et tout ça. J'espère.
Ah oui.
Mais la dernière fois, on s'était accosté rive droite en amont et on revenait.
Donner un coup de main.
Voilà.
Pour, et on traversait après.
Oui.
Et pour donner un coup de main. Et, voilà.
Après, on emmène les bateaux après. Quoi.
Non, c'est un complément d'information. J'avais pas pensé au halage. Donc oui, on s'amarre.
Mais pas trop près du pont.
Pas trop près, oui.
Oui, pas trop près du pont, mais on reste quand même.
Pour qu'il y ait du monde.
Non, mais je suis d'accord.
Est-ce que les gens sont bons? Vous avez tout ce qu'il faut, c'est clair? Voilà.
Pour l'arrivée à Blois ce soir, il faudra pratiquer un halage des bateaux dû au faible niveau d'eau sous le pont Jacques Gabriel. On envisage alors les meilleures solutions pour remonter les embarcations.
Voilà, moi, c'est la proposition que j'ai envie de vous faire. Ce serait d'installer quelque chose sous le pont, de prendre le temps. Il faut effectivement, je pense, quelqu'un à la bouée quand même pour pouvoir la renvoyer bien dans la veine, etc. Mais faire en sorte que, une fois que Mélusine est passée, récupérer le bout de cordage, prendre le temps de se mettre à l'angle comme il faut et d'avoir quelqu'un qui réceptionne la bouée quand même et qui puisse filer le truc et donner les infos quand même, mais quelqu'un à l'arrière de Mélusine qui est prêt à faire un tour mort au besoin, à passer les informations sur ceux qui tirent derrière. Et une fois qu'on est en haut, on se largue. C'est bien de ne pas accumuler tous les bateaux dans la Jussie à gauche comme on avait fait il y a 2 ans. On peut aller un peu vers la Creusée, mais surtout relayer les haleurs. Et voilà, ma foi, on a fait ça sous le pont Wilson. Ça s'est bien passé. Je vois pas trop de raisons que ça se passe pas bien.
Mais à tour mort, tu fais pas quand t'es en tour.
Non, bah non.
Mais donc il faut un langage.
Il faut un langage, gestuel. Mais celui qui est là, en train de faire le tour mort, avec les 20 personnes derrière, ils sont à 1 mètre chacun et dans l'axe, c'est plus facile de dire lâcher du mou, quitte à tirer un peu et à faire un tour mort, que d'être sous le pont comme ça, avec l'eau, et de ne pas avoir de poupée, de ne pas pouvoir faire tour mort et tout le monde hyper espacé.
Il faut un langage gestuel avec quelqu'un qui soit dessous et en haut.
Comment ?
Il faut un langage gestuel entre celui qui se trouve en aval et en amont.
Pour moi, il n'y a pas de communication,
amont,
justement.
Il doit être capable d'identifier ce qu'il faut faire.
Pour moi, il n'y a pas de communication de l'aval en amont, parce que l'intérêt d'être sur un bateau au mouillage, c'est justement d'être debout à l'arrière. Et du coup, par rapport à quelqu'un qui est dans l'eau, et le bateau qui va être sous la veine d'eau, où on ne voit pas forcément ce qui se passe, le fait d'être surélevé par rapport à l'eau, on voit la scène et on est en contact direct avec le premier qui tire.
On va le suivre, je pense qu'il va dans la deuxième arche. Il faut le suivre exactement. Attention. Il passe en dessous du deuxième, à partir du centre, du deuxième machin. À mon avis, il va pas trop. Par là. Regarde, oh. T'as vu?
Ouais.
T'as vu où? T'as repéré par le pont en dessous du deuxième Z là.
Bon, déjà il y a de la flotte.
Ouais, je vois qu'il bourde.
Il bourde parce qu'il n'y a pas beaucoup de flotte.
On dit à fond, il y a de l'eau.
Ah,
Attends, il n'a pas dit, pas.
Attends, faut qu'il passe, hein.
Ouais, mais le V, vous le voyez plus à droite.
Ah oui, mais attends, il recule, lui, hein.
Va plus à droite, t'es
ouais, en... Ouais, le V, il est plus à droite, hein.
Ouais, ouais, ouais. T'es en dessous la deuxième machine, là. La deuxième soudure.
Attends.
Suis Jacques.
Soudure. Il ne peut pas avancer tant que t'es devant,
alors. À gauche, à gauche.
Là, il y a fond.
Stop,
et
vous êtes
en
train de
nous
gauche. Oui, oui, oui.
On attend ton feu vert. Sors-moi
ça, là. C'est bon, sac. Enfin, tu vas lancer. Ah, ouais. Arrête-toi.
Allez, vas-y.
À fond. On ne connaît pas trop vite, là.
Et le marteau, celui-là aussi.
Voilà, mettre voilà. Comme ça. Ah oh ben les liches, ouais.
J'ai touché, hein. Deux pales sur trois.
Deux pales.
L'autre jour, j'en ai fait une, puis un petit bout. Là, il en casse deux. Le prochain coup, c'est...
Et là, tu vas refaire une ouais. Tu vas la refaire, celle-là
tu refais rien du tout.
Je vais voir ça. Je n'ai
pas encore rien.
Ah, puis bien à part. Hein.
Demain, je ne sais plus.
Il était délicieux.
Ton marchand d'hélice, là, il en a, il a l'expo.
Retour avec Gilles Crespin, des bateliers du Cher, pour évoquer le rôle de vigilance et d'alerte des bateliers dans le domaine environnemental sur la Loire.
Ce rôle d'observation, vous l'avez aussi, ou alors pas forcément sur le côté scientifique,
nous,
mais
nous,
vraiment
bateliers,
pragmatique.
Bah, oui, on en est quand même très sensible à la protection de l'environnement. Alors, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Il y a un certain nombre d'îles, par exemple, qui sont... Il ne viendra jamais à l'idée d'y aller, c'est la nidification des sternes. Enfin, par exemple, entre mars et juin, il ne faut pas aller déranger. On essaye, dans la mesure du possible, de communiquer avec les canoës, tout ça, de leur dire faites attention où vous allez, déranger les animaux.
Voilà. Espèces, ouais.
Après, au mois de septembre, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a plus les animaux, ils sont grands, enfin ils sont même peut-être déjà partis.
Ils sont migrés,
mais également pas acheter n'importe quoi. On est complètement désolé quand on voit sur certaines, des bivouacs, des restes de bivouacs sur certaines îles. On peut bivouaquer, on n'est pas obligé de garder ses vieux papiers. Ne pas faire du feu n'importe où. Il y a des îles où c'est très sec, un feu peut partir, puis on rase toute la végétation de l'île, voilà, disparaît. Toute la Loire est Natura 2000.
Oui,
là, moi, je peux vous dire, pour mettre, qui voyons la nature. Là, par exemple, bon, je préjuge de rien. Ça serait peut-être bien un site où il pourrait y avoir des hirondelles de muraille.
Mm-hmm.
Il y en a moins. on a constaté là-bas vers Brémont, il y a moins d'hirondelles. Peut-être, je ne sais pas, on va voir, il y a peut-être des trous, mais il peut y en avoir beaucoup moins aussi. Mais avant, il y avait des nuages d'hirondelles. Enfin, quand je dis avant, il y a 15 ans, j'ai vu là-bas du côté de Brémont, et vraiment, il y avait une population d'hirondelles très importante, et puis il y en a moins. Ouais, donc c'est bien ça.
Alors, on voit les trous.
Elles sont parties, mais il y en a moins. C'est un constat. Il y a des choses, comme je disais, parce que ça frappe quand même. Chinon faisait la fête de l'Alose tous les ans, avec des aloses pêchées dans la Vienne. Voilà. Bon, ben maintenant, ils sont obligés d'acheter les aloses pour faire la fête. Des anguilles, pareil. On a des collègues qui sont pêcheurs. En 2022, il a pris, je crois, 7 anguilles. Avant, il en prenait une trentaine, quarantaine en tant que pêcheur amateur. Hein. Mais bon, ben voilà, c'est un fait. Alors, il y a toutes sortes de phénomènes. Le réchauffement des océans et la modification des courants ne doit pas y être pour rien. Il y a également la surpêche, le braconnage des civelles à l'entrée de... Si on braconne les bébés anguilles, on risque d'avoir moins d'anguilles plus tard. Il y a aussi... On a vu le bioro. Bioro, normalement, c'est un oiseau, c'est une espèce de héron à pattes jaunes. Et puis il est bossu, il ressemble un peu à un kiwi, il a une espèce de position bizarre. Et il vit normalement dans le sud de l'Espagne, dans le delta du Guadalquivir, enfin tout à bas du côté de Cadix et tout ça. Et il migre, sa migration habituelle, c'était le franchissement des Pyrénées, et il restait en dessous de l'Adour. Et là, depuis 5 ans, on a vu
vous
un
voyez
coup,
par ici.
Puis deux, qu'on fait des petits, et puis là je crois que c'est 7 ou 8 qu'on en a vu sur le Cher. Alors moi j'ai quand même questionné des copains à la LPO, ils me disent oui, il y a une modification, sans doute que ça doit se réchauffer, et ils montent plus
chaud,
haut,
donc,
ou peut-être qu'ils trouvent de la nourriture.
Je prends quelques instants avec Christophe, nouvellement arrivé au sein de l'association des bateliers du Cher. Pour lui, être ici, sur un bateau sur la Loire, est l'aboutissement d'une vie passée le long du fleuve.
Alors moi, je suis originaire, oui, vraiment de Tours. Hein, voilà, mon père, lui, était un très grand passionné. Il a fait partie des grands passionnés au début du Cher. Donc j'ai appris à nager dans le Cher, parce que c'était obligatoire dans la famille. Hein, mais c'était pas nager à la piscine, il fallait savoir nager au cas où si tu tombes dans l'eau. Voilà, donc appris à nager là. Puis après, j'ai fait toute la continuité avec les amis, ados. Tu vas te baigner dans la Loire, même si c'est interdit. Donc voilà, donc on était plusieurs, mais par contre on était sensibilisés. La passion que j'ai depuis que je suis gamin, mais comme beaucoup, j'ai pas osé ou j'ai pas eu le temps de franchir le pas. Il a fallu que je fasse quelque chose personnellement pour m'ouvrir les yeux, et sans les viscérales hein, depuis gamin, donc j'ai besoin d'aller sur les bords de Loire quasiment tous les jours, enfin sans les viscérales. Le kayak, ça a été le truc déclencheur. C'était un rêve d'ado où je voulais descendre la Loire entièrement en kayak, et j'ai eu l'opportunité professionnelle après le Covid d'avoir énormément de temps, d'avoir le choix de travailler ou pas en fait, hein, tout simplement. Et donc j'ai dit, c'est le moment de ma vie, j'étais dans les conditions de santé et tout pour le faire, donc j'ai fait, puis en Velay, je me suis arrêté en SNI à peu près. Grâce à des guides, alors je vais donner des noms parce que c'est pour moi quelqu'un d'important aussi, Jean-François Souchard, qui a fait un super livre là-dessus, et ce qui m'a permis de pouvoir faire la descente de la Loire en toute sécurité, on va dire, entre guillemets, donc tout seul. Et c'est là qu'en fait, ça a été le truc déclencheur où je me suis rendu compte que il fallait que je fasse quelque chose de... Plus que de la regarder et de l'aimer, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je sois un acteur. Et j'ai l'association, donc les Bateliers du Cher, qui m'ont donné l'occasion de découvrir, d'adhérer chez eux. Et donc ça fait maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans que je suis chez eux et qu'on fait le maximum de festivals. Il y a le tout ce qui est, on va dire, la batterie, hein, donc en construction des bateaux, je participe sur les chantiers, on fait tous les festivals, mais à côté de ça, il y a aussi ce que j'aime beaucoup, c'est sensibiliser un petit peu les gens sur la Loire. Alors c'est pas forcément avoir des connaissances comme moi, je suis pas ingénieur ni rien, je me prétends pas avoir des connaissances. Le peu que je le connais, le peu que je l'aime, j'essaye de le transmettre un petit peu aux gens, j'essaye d'en parler, de la protéger au mieux par des petits gestes civiques, des trucs bêtes de tous les jours. Hein. J'en profite pour faire passer des messages. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont un peu cette idée-là. Donc le but, c'est pas de sauver le truc, mais de limiter ce que j'appelle les petites bêtises, voilà, quand on est ado, quand on sait boire des bières sur la Loire, laisser les canettes, c'est des petits détails comme ça, jeter ses mégots de cigarettes, bon, on commence tous à en entendre parler, qu'on essaye d'être tous un peu plus respectueux, ce qui ne demande pas des efforts de fou. Ça peut être, voilà, ça peut être faisable pour tout le monde. Donc c'est le petit message qui te permet, voilà, genre des festivals comme ça, rencontrer des gens, parler un peu, donc parler oui du patrimoine, parce que c'est important, hein, le patrimoine nigérien. Et puis bah voilà, glisser les petits messages à côté de ça, quoi. Et c'est un peu ce que j'essaye aussi de faire quand il y a des tables rondes. Hein. Ça s'est fait au centre Polo à Tours, où il y a eu une grande discussion sur les baignades dans le Loir, par exemple. Et donc j'ai évoqué de éventuellement transmettre une éducation nigérienne à nos enfants à l'école. Parce que je pars du principe que quand on habite à la montagne, des petits, on t'apprend les dangers de la montagne. Au bord de la mer, pareil, et donc je pars du principe que ben, pourquoi pas faire pareil avec la Loire. Alors quand je dis la Loire, c'est tous les cours d'eau, hein, le Loire, le Cher, tout ce qui va nous entourer. Donner l'éducation à nos enfants sur ben, c'est beau, c'est dangereux, comment le protéger. Et je pars du principe que si on commence de bonne heure tout petit, ben, ça devient, voilà, comme en montagne ou comme au bord de la mer, ça devient normal en fait. Que j'espère que ça se fera un jour, disons que c'est mon plus grand souhait.
Terminé, la rencontre avec Mélanie, qui voyage avec son compagnon et sa fille Ilunaï. Une deuxième expérience de voyage sur la Loire, dans le cadre de la Grande Remontée.
Eh bien, je suis avec Mélanie. Vous voyagez en bateau depuis quand ?
Ça fait presque 2 semaines. On est parti des Ponts de Cé, au niveau d'Angers.
Qu'est-ce qui vous a intéressé, motivé pour cette remontée de la Loire en famille ?
Ben, on avait déjà fait un petit bout d'aventure avec eux sur la remontée d'il y a 2 ans. On les avait rejoints pour la toute fin à Beaugency pour les 4 derniers jours avant d'arriver à Orléans. Et on avait trop aimé se faire embarquer en bateau, découvrir ce monde des mariniers, de la navigation sur la Loire et faire un peu la fête pour eux. Enfin, nous, on est venus pour jouer de la musique, donc on chante un peu tout le temps sur les bateaux, le soir, quand on est arrivé à bon port. Et ça avait été une trop chouette aventure il y a 2 ans, mais un peu courte. On était reparti avec un petit goût de trop peu. Ce qui fait que cette année, quand ils nous ont proposé de nous réembarquer à leur côté, on a dit oui et on a décidé de bloquer un vrai bout de temps pour vivre pas toute l'aventure malheureusement puisqu'on doit retourner chez nous ce week-end mais au moins 2 semaines avec eux, c'était chouette.
Donc vous n'êtes pas les spécialistes de la batellerie, vous n'êtes pas les scientifiques, vous êtes les saltimbanques de l'équipage en fait, c'est ça ?
Exactement.
Il y a 2 ans, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'idée de partir, même sur un trajet très court de 4 jours, de le faire avec eux à ce moment-là ?
Nous on est assez nomades dans la vie en général, mais on voyage principalement en camion, enfin en tout cas par la route. Et le voyage en bateau nous a toujours fascinés, mais sans avoir aucun lien avec ce monde-là. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand la possibilité s'était présentée, on était trop heureux de pouvoir découvrir cet autre mode de voyage et de déplacement. Et là, le fait d'être parti 2 semaines, on a adoré tout le trop parce que ça nous a vraiment laissé le temps de comprendre comment ça marche, la vie sur le bateau, l'organisation de l'équipage, tous ces moments où il faut descendre du bateau pour pousser, pour aller sous les ponts. Moi, ça a été une vraie révélation de la force que peut avoir un collectif. J'aurais jamais pensé qu'on était capable de tirer un bateau sous un pont avec une marche de 50 cm à remonter. Et en fait, quand on tire tout sur la corde, l'énergie qu'on met individuellement, elle est minime, c'est pas du tout fatigant. Et on voit le bateau qui avance presque même plus vite que si c'était avec le moteur. Et ça, c'était une très, très belle découverte symboliquement parlant. On était OK, on est plein à faire une action ensemble. En fait, on est d'une efficacité redoutable. Et ça, c'était très beau de découvrir ça et de se laisser un peu infuser par toutes ces choses-là.
On se prépare en ligne. On ne peut pas se faire mal au ski. On se tient prêt.
Enfin arrivé à Blois. Mais comme annoncé, il faudra remonter les 15 bateaux à la corde pour leur faire franchir le pont Jacques-Gabriel et ainsi atteindre le port de destination pour une escale de 2 jours, la Creusille. Si loin, si proche.
Alors surtout, on s'écoute. On n'a pas besoin de trop parler, on s'écoute et on suit la situation. On tire en même temps, doucement, comme ça, c'est bien. Faites attention à vos pieds, à vos chevilles. Pas trop vite, on va un peu vite. Encore un peu de mou. Stop. On se tient précis, des tongs, ça va donner un à-coup dans la corde. Encore un peu de mou. On maintient.
Ça a repris.
On tire, on bloque.
Top.
On bloque, on maintient. Ok, on y va doucement. Hop.
Doucement.
Tranquille.
On
n'arrête pas. Stop.
Allez,
top. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On tire, on ravale la corde. Top. Allez, doucement. On tire. Allez, on tire doucement.
Allez, tirez.
Allez, on y va.
Putain, il n'y en a qu'un seul.
Ouais, ça va qu'il n'y avait pas 200 bateaux. Hein. On arrête de tirer.
Là, il est dans le contre-courant.
On reprend un peu.
La voie, elle coule avec.
Moi, je crois que j'ai beaucoup aimé voir une sorte de, ouais, d'esprit collectif et de solidarité un peu à toute épreuve. Quoi. On n'a pas du tout sur le fait de bouger autrement qu'en bateau. Là, il y a vraiment un esprit d'équipage. Et ouais, ça m'a plu de capter que d'une, que c'est l'un qui est en rade, jamais personne ne va le laisser en arrière, même si c'est pas son meilleur pote ou quoi que j'ai pu entendre. En fait, il y a quand même un truc de... En fait, il y a un bateau qui en galère, on y va, oui, ou de galérer plus avec un bateau qu'un autre parce que ceux qui le naviguent sont moins expérimentés, donc ils arrivent un peu moins vite. Et pareil, on dit, de toute façon, on va pas lui dire débrouille-toi tout seul, quoi. On est là et on va y aller jusqu'au bout.
C'est la puissance du collectif.
C'est la puissance du collectif. Et ce qui m'a plu aussi, c'est de voir, en tout cas dans la nouvelle génération là, qui s'empare un peu du monde des bateaux et de l'exercice sur la Loire. Enfin, je trouve qu'on est une génération à beaucoup défendre des collectifs horizontaux et en gouvernance partagée, etc. Et là, j'ai bien aimé retrouver quelque chose de finalement assez autoritaire dans le sens où, enfin, au moment où il y a une manœuvre à faire, ça se passe de manière très rapide et très urgente. Et du coup, le capitaine prend tout son rôle de capitaine en donnant des ordres et il n'y a pas son mot à dire, en fait, chacun la met en sourdine et se met au service de ce qu'il y a à faire là. Et en fait, j'ai trouvé ça assez chouette de retrouver ce truc-là dans une dynamique pas de chef et d'hiérarchie, dans le sens où je crois qu'il n'y a aucun capitaine qui est là pour dire « je suis le chef et je dirige plus que quelqu'un d'autre cette aventure », qui est très collective et horizontale globalement. Mais je trouvais ça inspirant de retrouver que, bah ouais, sur certaines compétences ou certaines actions à faire, qu'il y ait une personne qui puisse prendre la manœuvre en main et que tout le monde se mette au service d'eux et arrête un peu les « ah oui, mais moi je pensais que peut-être nanani nanana ». En fait, je trouve ça d'une efficacité redoutable et ça me donne un peu envie de remettre ça dans des projets horizontaux. Ça, c'est pas parce qu'on est horizontal qu'il n'y a pas des moments où on peut décider de faire confiance à une personne et de tous tirer la corde dans la même direction.
Et Elona, je t'ai vu te baigner hier. Est-ce que te baigner dans la Loire, c'est chouette?
Oui. Qu'est-ce que t'as aimé, toi,
d'être sur le bateau? De conduire le bateau.
T'as conduit le bateau? T'as pu conduire le bateau?
Super.
Antoine, il t'a laissé tenir la barre?
Oui.
Trop bien.
Tu te débrouillais trop bien, en plus.
Oui.
T'es arrivé à manœuvrer?
Oui.
Merci, mesdames.
Thank you.